Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean-Philippe Cattenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et psychiatre de formation. Vous êtes responsable du service d'art et thérapie au centre psychiatrique de Clermont-de-l'Oise. Et vous êtes également membre actif de l'Union rationaliste. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que nous nous entretenions ce dimanche de votre métier d'art-thérapeute et que vous nous expliquiez en rationaliste les raisons pour lesquelles il vous semble, Jean-Philippe Cattenet, que par l'art, on peut soigner et mieux réintégrer les patients en psychiatrie.
Eh bien, tout d'abord, un mot sur la manière dont sont organisés nos ateliers à Clermont-de-l'Oise. Mmh. Ils sont animés par des artistes professionnels et co-animés par des personnes ayant le statut de soignant. En conséquence, nous centrons notre activité sur la création artistique. Nous sollicitons le potentiel créateur de personnes motivées. Et qu'est-ce qui nous différencie d'un département universitaire d'art plastique ou d'une école de musique ou d'une école des beaux-arts? Eh bien, au moins deux données. La première tient à aménager un lieu accueillant, rassurant, donc un milieu de sociabilité, d'échanges, de rencontres chaleureuses où les participants se sentent à l'aise et prennent confiance. C'est un moment préalable de détente, favorable en soi à l'équilibre psychique et de plus propice à la création. La deuxième donnée tient à la personnalisation de l'action, à une attention particulière à chaque personne. Ainsi font ceux qui animent les ateliers, puisque les artistes conseillent, orientent, stimulent, encouragent de telle sorte que chaque patient puisse mettre à jour le meilleur de lui-même. Alors, tous s'expriment et certains même franchissent un cran de plus, ils vont se révéler à eux-mêmes. Ça dépend des séances, ça dépend de leur état. En termes nietzschéens, en termes de force, je dirais que si l'expression permet une restauration de ses forces, alors la révélation de soi instaure de nouvelles forces. Résultat, tous nous font part d'un apaisement à l'issue des séances, effet de la structure d'accueil et de l'accompagnement personnalisé lors du déroulement de cette séance, et de surcroît nous font part d'une satisfaction, d'une meilleure estime d'eux-mêmes, effet propre de la création.
Jean-Philippe Cattenet, oui. Quelles sont les différentes activités dans ces ateliers?
Alors, elles sont multiples. Il y a de la musique, il y a des arts plastiques, du théâtre, de l'écriture. Il y a aussi des stages qui peuvent intéresser d'autres disciplines, à savoir la danse, le chant, à savoir les marionnettes, etc.
Et comment s'inscrivent au milieu de la cure ces moments d'activité et quelles en sont leurs durées?
Alors, ce sont des séances qui durent de 2 à 3 heures.
Donc des très longs moments.
Très longs moments qui sont d'abord préparés par une séance d'accueil, justement, qui se termine le plus souvent par un lieu de regroupement où on va plus ou moins analyser, plus ou moins formellement le déroulement de la séance, mm-hmm. et puis voire même une pause si nécessaire dans l'intervalle précisément de la durée d'action.
Ce sont des ateliers collectifs?
Ce sont des ateliers qui sont collectifs.
Combien de personnes peuvent y participer en même temps?
En moyenne, une dizaine de personnes. Ça varie entre 6, 8 et puis une quinzaine.
Et voilà. Qui fait le lien entre le travail thérapeutique analytique et ce qui se joue en séance?
Alors,
d'art-thérapie, je veux dire.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe de permanents, qui sont les soignants, et des intervenants à artistes. Mm-hmm. Puis moi, je coordonne l'ensemble de l'équipe.
Mais vous n'êtes pas nécessairement le psychiatre référent de chacun des...
Ah non, bien au contraire. Non. Je veux dire, c'est les personnes qui fréquentent ces ateliers sont adressées par des psychiatres qui les en charge.
D'accord. Mais c'est vous qui faites peut-être la courroie ou le lien quand des choses se passent importantes.
Quand c'est nécessaire, oui, d'une intervention. Sinon, si vous voulez, le travail est fait de libérer le plus possible du poids de l'histoire ou de la réalité psychopathologique, de telle sorte de laisser un espace libre pour la création. C'est une condition indispensable pour que quelque chose, en effet, d'autre puisse se manifester.
Que la lourdeur et la pesanteur du psychisme ou de la maladie, c'est ça que vous dites ?
Bien sûr, et puis le fait surtout alors de ce fait d'être réduit précisément à des symptômes ou un diagnostic, qui est complètement antinomique par rapport à la nécessaire libre voie, l'horizon libéré précisément de ce poids pour pouvoir créer quelque chose et manifester quelque chose de propre, de singulier à soi-même.
Comme si ces espaces de création étaient des espaces de création de soi en dehors de la maladie, quoi.
Bien sûr.
Alors, il est impossible de réfléchir, Jean-Philippe Cattonnet, sur Clermont-de-l'Oise et votre travail d'art-thérapeute dans cette structure sans réfléchir sur le plan national à la situation fort délicate du service public de santé. Et donc, c'est là-dessus que je vous interroge, puisque précisément, on souhaiterait qu'il y ait des ateliers d'art-thérapie dans de nombreux centres psychiatriques, mais... Est-ce le chemin que nous suivons en ce moment ?
Alors, avant de vous répondre précisément, je voudrais introduire une question préalable. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du service public, après tout ? Pourquoi est-ce qu'on le défend ? Eh bien, je pense que face à une société qui régit par le profit et la loi inflexible du capital, société qui accroît sans cesse les inégalités, le service public offre une égalité des chances tant pour la formation, pour l'éducation, l'action sociale et en l'occurrence les soins. Le service public constitue donc une compensation, fût-elle partielle, une mesure de justice, de fait une modalité de réduction des inégalités. Et là je pense à ce que Pierre Bourdieu avait écrit à la fin des années 90, les services publics qu'il faut défendre, il faut les défendre. Pourquoi ? Parce que ça constitue un frein, un des modes de résistance objective face à l'omnipotence et même, je dirais, à la dictature des marchés. Je pense bien sûr à la spéculation financière, pour être clair. Alors maintenant, pour ce qui nous concerne, pour répondre précisément à votre question,
sur la psychiatrie,
je dirais trois raisons pour un malaise. La première consiste en une constante marche vers la privatisation. Mmh. Et cela, je ne parle pas uniquement des services souvent techniques qui sont dévolus, qui sont sous-traités par des entreprises privées. Pour les soins eux-mêmes, tente de s'imposer depuis environ la fin des années 80, une gestion bureaucratique qui est issue du monde industriel. Et au nom de cette incongruité qu'on appelle l'hôpital entreprise. Alors avec comme mot d'ordre évaluation, accréditation, comme mot clé procédure, protocole, acte chiffré. Or, la nature même de l'activité soignante en général, tout spécialement en psychiatrique, repose non pas sur des chiffres, mais sur la relation. La bureaucratie managériale, ce qui se dit au nom de la démarche qualité d'ailleurs, apparaît donc totalement étrangère à l'effectivité de cette relation. Inadéquation totale par conséquent entre l'une et l'autre. Deuxième élément, qui est plus récent, le slogan que vous connaissez bien du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, qui a eu une application immédiate et qui a créé des trous dans les effectifs. Avec en plus une politique de départ volontaire moyennant une prime d'un an voire de deux ans de salaire, d'où des postes qui sont gelés, qui sont bloqués, qui sont irremplaçables. Enfin, troisième élément pour expliquer ce malaise, spécifique cette fois à la psychiatrie, il y a peu de temps, en 2011, une loi d'atteinte aux libertés individuelles, reposant sur l'archaïsme, le vieil amalgame entre difficulté psychique et dangerosité. Cette situation traduit un recul face à, je dirais, plus d'un demi-siècle d'une avancée vers une psychiatrie citoyenne, une psychiatrie solidaire, que je dirais même une psychiatrie fraternelle, une fraternité entre semblables. Et pourtant, je dirais pour terminer, en dépit de ces mauvais coups, la majorité des équipes continuent courageusement à faire un travail de compétence et de conscience, de souci et d'attention à autrui.
Qu'en est-il de la situation de la psychiatrie aujourd'hui ? Je veux dire, est-ce que, par exemple, dans votre service, vous vous sentez menacé dans votre travail ? Vous avez beaucoup moins de postes ?
C'est-à-dire, les postes, il y a d'abord, en effet, une réduction, pas pour l'instant pour le service d'art, mais les menaces existent. Et puis, il faut défendre bec et ongle, précisément, ce qui nous est donné pour travailler aujourd'hui. On sent, et puis, je pense que ce n'est pas uniquement... Et ça existe, une question de moyens et de moyens matériels, c'est aussi un état d'esprit. C'est qu'il faut lutter contre un sentiment pour beaucoup d'une résignation. C'est peut-être encore ce qu'il y a de l'obstacle le plus difficile à affronter.
Je comprends. À Clermont-de-l'Oise, nous ne sommes pas loin d'Ermenonville, commune dans laquelle Rousseau est mort, près du marquis de Girardin. Et nous fêtons cette année le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Très précisément, Rousseau est né le 28 juin 1712. Alors, bien que Rousseau fût genevois, nous allons célébrer cette naissance par de très nombreux colloques dans toute l'Europe, en Suisse, à Genève, mais également en France, autour de Rousseau, et vous allez en tenir un, Jean-Philippe Catonnet, dans l'hôtel-restaurant que vous dirigez en mai et juin. C'est donc ici le philosophe, en plus du psychiatre, qui reprend la parole pour nous raconter ce qui va se passer autour du 300e anniversaire de la naissance de Rousseau.
Et voilà qui doit susciter l'enthousiasme. Alors en effet, le service d'art que je dirige va organiser deux types de manifestations, en fait. Une exposition et un colloque. Les deux vont se dérouler dans l'hôtel-restaurant dont vous parlez, dont je suis responsable, qui est en même temps un lieu d'insertion sociale et professionnelle et qui dispose beaucoup d'espace, un espace de 3 hectares. Alors, il y aura bien sûr une exposition qui va être une installation type land art en conjointement avec des classes qui sont organisées par la Ligue de l'enseignement lors de stages précisément indexés land art dans lequel on va s'associer.
Et là, c'est le Rousseau botaniste, naturaliste qui sera évoqué ?
Ce sera le thème général Rousseau, l'art et la nature. Quant au colloque, il va aussi reprendre ce thème-là, mais l'étendre. Il va évidemment traiter de l'ensemble des aspects de la pensée de Rousseau, l'art, la nature, la littérature, la musique, bien sûr, les promenades, autant de conférences sur ces thèmes-là qui sont prévues, l'éducation, la morale, la politique. Alors, ça va être quelque chose qui va même, ces conférences vont être... ponctués, vont être enrichis de réalisations artistiques, lectures de textes, scénettes jouées, spectacles proprement dit, un spectacle rousseauiste, et même, figurez-vous, un opéra, le devin du village, qui sera complètement monté à cette occasion.
Et c'est bien évidemment un travail d'art thérapeute, parce que ce sont les patients qui vont jouer ?
Alors, ça va être... En partie en tout cas pour l'exposition, ce sera entièrement ce qu'on appelle nous des stagiaires, parce qu'ils sont en stage chez nous. Voilà. Pour ces spectacles, ce sera mixte. Il y aura en effet des lectures de textes par les gens de l'atelier théâtre. Il y aura un arbre de vie et un arbre de liberté qui sera en effet composé, l'arbre de liberté, par l'atelier d'écriture. Et puis, par ailleurs, il y a une troupe qui va interpréter Rousseau et une autre qui s'est constituée pour un opéra qui travaille avec nous depuis très longtemps. En particulier des gens de la Société française de psychopathologie, de l'expression et d'art-thérapie qui se sont mobilisés, avec lesquels on a un partenariat, société tout à fait dynamique pour faire connaître l'art-thérapie. Et qui édite une revue magnifique, par parenthèse.
Très bien. Alors, dernière question aux membres de l'Union Rationaliste que vous êtes, Jean-Philippe Cattonnet. Mais je crois que tout votre propos nous montre comment vous incarnez le rationalisme. Alors, pourquoi êtes-vous rationaliste ?
Je vous dirais, de plusieurs manières. En tant que philosophe, je fais toujours en sorte que ma réflexion se fonde sur la raison, ce qu'on appelle habituellement l'esprit critique, c'est-à-dire savoir examiner, soupeser rationnellement ce qui se présente à l'esprit. Mais je tiens par ailleurs à dire que je m'efforce de m'écarter de tout sectarisme, c'est-à-dire je suis prêt à admettre une sagesse émanant d'une source religieuse, mais certainement pas à la faire mienne, cette sagesse, au nom de la révélation. Maintenant, en tant que psychiatre, pour prolonger ce que je viens de dire, et je dirais plus généralement dans ma vie sociale, je suis constamment confronté, comme vous d'ailleurs, j'imagine, à des confusions qu'il s'agit de résoudre et de résoudre en raison. Alors, tenez, pour reprendre le propos précédent, un seul exemple, celui de la bureaucratie managériale, qui se revendique hautement de la rationalité. Or, de quelle rationalité s'agit-il ? Il s'agit d'une rationalité qui est l'instrumentalité d'autrui, aux antipodes d'une raison universelle, donc morale, et en l'occurrence des règles éthiques du champ psychiatrique. Vous voyez, les personnes ayant des difficultés psychiques, je les considère avant tout comme ce qu'elles sont, à savoir des gens doués de raison. La psychiatrie relève de ce qu'on appelle l'humanisme pratique, ce qui implique en l'occurrence de nouer des relations fraternelles, une fraternité entre semblables dont je parlais il y a un instant. Et je dirais pour terminer, que tout simplement, en tant qu'humain, pour quelque faible que soit ma raison, avec les qualités de cœur, elle représente ce que je considère de meilleur.
C'est sur ces derniers mots que nous quitterons. Jean-Philippe Cattonnet, je vous remercie.
Merci.
Je rappelle que le dernier numéro de Raison Présente s'intitule « Art et sciences, réalisation et projet d'interférence » et que nous nous trouvons sur la même lignée de la nécessité de l'art et de la raison. Je remercie Philippe Palares et Brigitte Mazire qui ont rendu possible cette émission. Au mois prochain.